France Info. 21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Bonsoir. Le gros coup de fatigue des députés à l'Assemblée nationale, on va en parler tout à l'heure. Le vote de la loi ferroviaire au Sénat, l'Europe divisée face au phénomène migratoire, les grandes manœuvres en vue des prochains scrutins. C'est le menu de Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Annie Genevard.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale Les Républicains, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée du Doubs. C'est tout juste.
C'est juste.
Avec nous également, bonsoir Valérie Rabault.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous, députée socialiste de Tarn-et-Garonne, présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. À mes côtés également, Thierry Soler, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et également ce soir, invité, bonsoir Sébastien Chenu.
Bonsoir.
Député du Nord et porte-parole, du Rassemblement National.
C'est
désormais.
Parfait.
Voilà, nous y arrivons.
Quelle modernité.
Vos réactions sur Twitter, hashtag TEP. Alors comme ça, vous êtes en burn-out, si j'ai bien compris, chers invités. Les députés seraient au bord de la crise de nerfs. Vous avez siégé 15 jours durant, voire plus, 17 et deux week-ends d'affilée, enchaînant les textes, les milliers d'amendements, asile, immigration, agriculture, alimentation, loi Élan. Ce n'est pas fini, arrive la formation professionnelle, la réforme des institutions. Les héros sont fatigués. Vous allez entendre successivement Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, puis François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui propose de lever le pied.
On est arrivé en limite, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, quel que soit le banc sur lequel il est assis. Les gens sont épuisés. Beaucoup ont fait plusieurs week-ends. Les ministres, les rapporteurs, les députés, tout le personnel de l'Assemblée qui est à bout de nerfs. Tout le monde le sait. On fait semblant parce qu'il ne faut pas le dire. Mais tout le monde sait que les gens sont à bout.
Tout d'abord, je l'ai dit ce matin en conférence des présidents, nous sommes en effet dans un fonctionnement qui n'est pas normal de notre Assemblée, puisque nous avons siégé trois week-ends successifs. Les députés ne se plaignent pas de trop travailler. Nous voulons simplement qu'il y ait un fonctionnement correct de notre Assemblée et de nos débats.
J'ai envie de vous dire, de façon un peu provocatrice, petite nature, je commence par vous, Annie Genevard, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes vraiment fatiguée?
Moi, je ne suis pas une petite nature, je vous rassure. Alors, il n'est pas question de se plaindre de trop de travail, même si la charge est lourde. Hein, vous l'avez rappelé, 17 jours continus, jour et nuit, week-end compris, 80 heures la semaine dernière, 80 heures dans l'hémicycle.
Alors, nous sommes loin des 35 heures.
Hein. En plus des séances de commission et autres réunions. Donc, c'est vrai que la charge de travail est lourde, mais moi, je suis bien placée pour le savoir. J'ai présidé ce week-end, samedi soir, dimanche. Dimanche matin, mes collègues étaient présents également. Non, ce qui est exaspérant, c'est la désorganisation. Le gouvernement, en début d'année, n'a fourni que peu de textes. Il y avait une faible activité législative et là, il y a un embouteillage. On met en trois semaines trois textes majeurs qui mériteraient le double du temps d'examen. Donc, cette majorité qui nous promettait une meilleure efficacité, que ça allait fonctionner efficacement comme dans les entreprises, ça allait être formidable. Au fond, ça n'a jamais aussi mal fonctionné.
Valérie Rabault, vous dites la même chose, trop de textes.
Je dis la même chose, je dis que janvier, février, mars, c'était très calme. Du coup, là, il y a un énorme embouteillage. Je dis que du coup, c'est brouillon. Et ce qui est très inquiétant, et moi je ne parle pas des députés, on n'est pas là pour parler de nos conditions de travail, on est là pour parler aux Français. Quand on fait mal la loi, parce que là, c'est le cas, le fait est que la loi...
Vous dites ça, vous.
Ah oui, oui, je dis qu'on fait mal la loi. Là, on fait mal la loi. Ce sont forcément les Français qui en subiront les conséquences. Faire la loi, c'est un travail d'orfèvrerie. Il faut être précis, méticuleux, essayer de penser à tous les cas au moment où on l'écrit pour que les juges puissent avoir une bonne appréciation. Là, on fait mal la loi. Et franchement, je rejoins ce qu'a dit ma collègue Annie Genevard, on nous avait promis un fonctionnement, on allait voir ce qu'on allait voir. Alors là, pour le coup, c'est un sacré recul, sincèrement. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que on reprenne un fonctionnement normal, où vous savez quel texte vous examinez, sur quel sujet ça a porté. Quand vous avez des articles, des textes qui vont de l'alimentation aux revenus des agriculteurs à des préoccupations écologiques, forcément... il y a des sujets qui sont moins bien traités que d'autres. Et ça, c'est très grave. Donc nous, effectivement, ça fait un point que nous avons mentionné à la conférence des présidents. C'est ce qui organise le travail, l'agenda de l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit. Et je vais vous donner un exemple qui va vous sans doute vous parler. Quand la ministre du Travail arrive en commission avec 30 amendements qui changent le texte, ça signifie concrètement que la version 1 du texte n'était peut-être pas idéale.
Ah, vous dites ça, vous.
C'est, oui, j'arrive comme ça.
Elle vient avec une V1.
Une V1 du moins, et une V2, mais qui vit sa vie en même temps dans l'hémicycle. Donc ça, c'est dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas acceptable.
Le nombre d'articles sur la loi qu'on examine a doublé entre le moment où il a été présenté en commission et celui où il a été présenté dans l'hémicycle.
Oui, Thierry Solaire réserve ses coups. Sébastien Chenu, vous dites la même chose, il y en a trop.
Il n'y a pas d'indécence, on n'est pas là à se plaindre. Ce serait indécent de se plaindre. Simplement, je vois qu'il y a une gestion complètement amateur du travail législatif. Et François de Rugy aujourd'hui se plaint, mais enfin, il est co-artisan de cet amateurisme qui règne depuis, en réalité, plusieurs mois maintenant.
Parce qu'il met en garde le gouvernement, au passage.
Écoutez, tout ça est d'un brouillon absolu, mais surtout, il y a plus grave. Moi, je note qu'il y a deux types de méthodes qui ont été employées. Les ordonnances, à un moment, là, maintenant, on est sur du temps programmé, qui prive de parole, la réalité, c'est ça, qui prive de parole énormément de parlementaires.
Faut,
à un moment, il faut aussi respecter les parlementaires, leur capacité à fabriquer la loi, à ne pas bâcler les choses. Moi, je suis représentant du Front National d'hier, c'est-à-dire du Rassemblement National aujourd'hui. Eh bien, c'est-à-dire des millions d'électeurs. Une heure de temps de parole pour des grands textes comme le logement, priorité des Français, comme l'agriculture. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable à se partager avec les autres députés non inscrits ? En réalité, je pense que ce gouvernement, il a peur. Il a peur des débats, il a peur des oppositions, il a peur que les Français se rendent compte de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale et de leurs arguments. Il a raison d'avoir peur, d'ailleurs, parce que ce qu'ils font n'est pas beau à voir.
Alors Thierry Solaire, respirez un bon coup, préparez vos arguments. Nous allons écouter l'info avec Diane Ferchit et vous avez ensuite la parole.
Le projet de la réforme de la SNCF adopté par les sénateurs cet après-midi, un projet de loi qu'ils ont modifié afin de donner des gages aux syndicats. Les principes du projet du gouvernement restent toutefois conservés, comme l'ouverture à la concurrence et la fin du recrutement au statut de cheminot du côté de la grève. L'heure n'est pas à la sortie du conflit, estime la CFDT. Un suspect belge mis en examen dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Il est suspecté de complicité dans la préparation de ces attaques. L'homme a été remis aujourd'hui à la France et écroué. Il avait été arrêté en mars 2016 en Belgique. Ce suspect est le frère d'un vétéran du djihad soupçonné d'avoir piloté les attaques depuis la Syrie. Le gouvernement italien remporte ce soir le vote de confiance du Sénat. Giuseppe Conte a présenté son programme. Il a promis un changement radical, notamment en matière d'immigration, un business selon lui alimenté par une solidarité de façade. Le chef de gouvernement italien veut un système obligatoire de répartition des demandeurs d'asile dans l'UE et une révision des accords de Dublin. Fin de suspense pour le club de Lille. Le LOSC est confirmé en Ligue 1 ce soir par le gendarme financier du foot. Il s'était maintenu dans l'élite sportivement, mais ses finances inquiétaient les instances dirigeantes. La DNCG a néanmoins décidé d'un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation. L'interdiction de recrutement est levée.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Alors je résume, brouillon, impréparé, amateur. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Thierry Solaire? Je rappelle que vous avez rejoint il y a quelques temps déjà La République En Marche.
Bah écoutez, ça m'inspire trois choses. La première, c'est que je suis pas persuadé que ceux qui nous écoutent aient l'image que ce soit les parlementaires, quelles que soient les couleurs politiques, qui soient les gens qui sont le plus dans des conditions de travail difficiles. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent un peu partout. Et c'est vrai que parfois au Parlement, c'est pas nouveau. Il y a des moments où on fait pas grand-chose, et puis il y a des moments où ça s'accélère énormément. Ça a toujours été ça, et c'est vrai qu'il faut le corriger. Deuxièmement, j'entends mes collègues dire, et notamment Madame Rabault, qu'ils sont pas bons parce qu'ils sont fatigués. Moi, je vais faire des compliments à ceux qui sont sur le plateau. plateau. Annie Genevard,
c'est pas ce que j'ai dit, monsieur.
Elle est vice-présidente de... Ça, ils interrompent toujours.
Je veux bien que vous disiez ce que vous vouliez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Pendant le week-end, elle n'est pas dans la même partie politique que moi. Je n'ai pas senti qu'Annie Genevard avait mal présidé la séance. Elle l'a très bien présidée. Et Madame Rabault, je vais vous faire un compliment aussi. Vous êtes l'ancienne rapporteure du budget socialiste du précédent quinquenat. Vous connaissez bien l'art parlementaire. Vous connaissez bien vos dossiers. Et je vous ai vu pendant le week-end. Et vous étiez bien sur la balle, bien sur les critiques. Bon,
j'attends mon compliment.
Et Monsieur Chenu, c'est vrai que je lui reconnais ça. On est 577. Il est dans un groupe qui est un peu petit. Et c'est vrai que moi, je regrette qu'il n'y ait pas un groupe Front National à l'Assemblée Nationale, parce que le Front National fait des scores importants.
Deuxième chose.
Ouais. Qu'est-ce qu'attendent les Français, au fond, de ce gouvernement et donc du Parlement? C'est qu'on mette en œuvre les propositions qui ont été celles du président de la République et qui sont portées par la majorité. Et pardon, mais depuis un an, c'est plutôt rassurant que dans un pays où on a toujours l'impression que tout est compliqué, que tout est long, qu'on doit mettre 5 ans pour faire accoucher d'une souris, eh ben écoutez, non, on n'a pas arrêté et on n'arrête pas.
Tout va bien alors, vous pouvez continuer à siéger tous les week-ends.
En tout cas, je suis très content que la réforme ferroviaire soit faite, que la loi agriculture soit passée, que la loi Elan soit en cours de discussion et que d'ici la trêve estivale qui aura lieu, je crois, fin juillet, début août, nous ayons encore énormément de textes, parce que c'est ça que les Français attendent, qu'on change, qu'on transforme.
Encore un mot là-dessus,
parce
qu'il faut qu'on parle de la SNCF, Valérie Rabault.
Monsieur Solaire, le président de la République fait des annonces. Ce que proposent les textes de loi que la majorité vote actuellement, c'est le contraire des annonces du président de la République. Alors, vous ne l'avez peut-être pas relevé, mais enfin, nous, on l'a relevé à plusieurs reprises.
La réforme ferroviaire, ça a été promis.
Je ne parle pas de la réforme ferroviaire, je parle de ce qui s'est passé ce week-end sur la loi Elan. Justement, le président de la République a dit, pour des publics très fragilisés, ce qu'on appelle les populations d'Allo, il faut qu'il puisse y avoir une mixité qui s'opère. Le texte fait le contraire. Alors moi, je veux bien, mais ça fait partie du débat, ça fait partie de ce que nous avons dit. Ce qui prouve le degré, soit le degré d'impréparation, soit effectivement il y a une forme de mensonge aux Français entre ce que le président de la République annonce.
Elle est sur la balle, elle est à fond.
Mais non, mais c'est.
Elle est dans le fond.
Mais il y a des choses que nous avons.
Il y a des choses que nous avons votées.
Et il y a des choses où nous sommes très étonnés de voir qu'il y a un énorme hiatus entre ce qu'annonce le président de la République et ce qui est écrit dans les textes. Parce que la loi, ce ne sont pas des paroles, c'est uniquement ce qui est écrit dans les textes. Il n'y a que ça de vrai. Donc quand on est confronté à cette situation-là, ça fait partie des choses que nous dénonçons, ça fait partie des choses que nous avons portées, y compris ce week-end, et c'était dimanche toute la journée, et qui aujourd'hui ont très peu de réponses de la part du gouvernement, ce qui montre soit un degré d'impréparation sur certains textes, soit une forme d'hypocrisie, mais en tout état de cause, les Français sont bernés sur cette affaire.
Je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce de la part du gouvernement. C'est-à-dire qu'il essaye de noyer l'opinion publique sous un torrent de réformes, ou plutôt de fausses réformes. Mais surtout, ce sont des montagnes qui accouchent de souris. Deux exemples, la loi sur la modernisation de la vie politique. Finalement, qu'est-ce qui a accouché de tout ça? Que les parlementaires ne puissent plus embaucher leurs conjoints ou leurs enfants. On aurait dû s'attaquer au conflit d'intérêts. Je crois qu'il y a un conflit d'intérêts en ce moment qui est intéressant, celui de M. Colère à l'Elysée. Et bien là, il y avait de quoi s'occuper, voyez-vous. Là, il y avait de quoi vraiment réformer les choses. La loi sur l'agriculture, rien. Il n'y avait rien dans ce texte.
Je vais terminer mon propos. Sinon, on peut y aller.
Je vais terminer mon propos. Et puis, de l'autre côté, je comprends que les députés En Marche considèrent que tout va bien. Ils ne légifèrent pas. Ils ne déposent aucun amendement.
On ne les entend
pas. Ou ils votent contre leurs propres amendements. Donc c'est un fouillis, un capharnaüm permanent. Évidemment, ils sont juste des machines à voter.
Les députés de La République En Marche, sur ce texte, ont déposé 700 amendements. 700.
Ils ont retiré, oui.
Sur la loi logement. Oui. Et ils les ont défendus pour nous dire que tout bien qu'ils pensaient leur amendement. Et puis, une fois que le ministre a dit « je suis pas d'accord », dit « oh bon, on le retire ».
On n'est pas là pour faire... Alors, quand on les reprend,
on n'est pas là pour faire du spectacle à l'Assemblée nationale.
Soyez honnêtes. Est-ce que ça n'a pas toujours été le fonctionnement du truc
majoritaire? Mais vous rigolez ou quoi? À 700 amendements?
C'est très nouveau, alors.
Je ne vous dis pas... Attendez, moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que le fonctionnement parlementaire est très moderne. Et je pense qu'il faudrait, plutôt que de le dire, le changer. Et voilà, quand François Rugy dit, on en est loin, et il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pardon de vous dire, l'essentiel de ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a moins de chômage en France, et c'est que les réformes sont engagées. Et quand vous dites, Sébastien Chenu, qu'il n'y a que les effets d'annonce, c'est très contradictoire. C'est très contradictoire avec l'idée qu'il y a trop de textes. S'il y a des annonces, il n'y a pas les textes de loi.
Vous nous survendez des textes, et à l'arrivée, il n'y a rien là-dedans. Je veux dire, sur l'agriculture, c'était pathétique. Sur la réforme, sur la moralisation de la vie politique, il n'y a rien là-dedans. C'est vide, c'est creux. creux. Ce sont des textes qui sont faits juste pour entretenir du débat, faire de l'annonce, mais il n'y a rien là-dedans.
Alors, je reprends la main. Je ne sais pas s'ils sont aussi surmenés que vous, mais les sénateurs ont voté donc la loi ferroviaire aujourd'hui, 240 voix contre 85. Le Sénat qui grave dans le marbre l'incessibilité de la SNCF. Est-ce qu'au fond, les grèves vont s'arrêter? Question. Écoutez ce qu'en a dit Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de Haute-Vienne et rapporteur du projet de loi ferroviaire qui était l'invité de Jean-Jérôme Bertolus sur France Info.
Depuis la lecture à l'Assemblée nationale, il y a eu un engagement fort de l'État, notamment sur la reprise de la dette, sur le niveau de financement. Et effectivement, au Sénat et à l'Assemblée, le cadre social a été amélioré, ce qui devrait être de nature à rassurer les cheminots et à leur permettre de reprendre le travail en toute sérénité.
Quand
la réforme, elle ne pose pas, ce n'est pas du sang et des larmes. Elle doit poser la première pierre de ce qui sera une nouvelle période glorieuse de la SNCF.
Annie Genevard s'est pliée.
Alors, je ne sais pas si c'est plié. En tout cas, le Sénat a achevé son travail, un bon travail, en précisant quelques points. C'est assez technique, mais enfin, sur la préservation des petites lignes, sur laquelle nous avions alerté le gouvernement, sur l'incessibilité du capital de la SNCF. Donc, on espère que le travail du Sénat sera respecté par le gouvernement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, cette réforme, nous l'avons votée, nous l'avons accompagnée, parce que nous considérons qu'elle va dans le bon sens. L'ouverture à la concurrence, le statut du cheminot.
C'est un compliment d'Annie Genevard.
Mais il demeure des interrogations sur lesquelles nous n'avons pas obtenu d'éclaircissement. D'abord, il y a à la SNCF un déficit structurel. La SNCF, aujourd'hui, perd 3 milliards par an. Donc cette question, elle n'est pas réglée, elle n'est pas tranchée, elle est à venir. La reprise de la dette, 35 milliards d'euros, comment sera-t-elle financée ? Nous nous opposerons à ce
toutes
que l'impôt, la suspens. Fiscalité soit augmentée pour assumer la reprise de cette dette. Sur les petites lignes, c'est un point majeur pour nous, les petites lignes qui structurent tout le territoire national. Nous n'avons pas la certitude que les petites lignes seront maintenues. Donc il y a un certain nombre de sujets et puis la qualité du service. Alors moi, ce que j'espère, c'est que une fois que ce texte aura achevé son parcours parlementaire, eh bien le travail reprendra parce que c'est quand même la question aussi des usagers, des gens qui vont au travail et qui, depuis des jours et des semaines, sont vraiment dans une situation difficile. Oui. Donc, moi, je tiens à souligner que notre groupe, le groupe des Républicains, sait prendre ses responsabilités quand il le faut, accompagner les réformes quand elles sont bonnes. Donc, je récuse le procès en caricature qui nous est fait quelquefois d'une opposition systématique.
Vous votez cette loi de façon.
Nous l'avons votée, mais nous resterons extrêmement vigilants sur les points que j'ai évoqués.
Alors, on va parler de la suite désormais de ce qui va se passer dans les prochains jours avec notamment l'intersyndicale, juste après le rappel de l'info à 21h20 sur France Info avec vous, Diane Ferschit.
Alors que l'Iran a annoncé vouloir augmenter ses capacités d'enrichissement d'uranium, aujourd'hui Emmanuel Macron met en garde contre une escalade qui pourrait conduire au conflit. Le président de la République s'est exprimé à l'issue de son entretien avec le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou tente de créer un front commun contre l'Iran en Europe. Dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre, un homme de nationalité belge a été remis à la France ce mardi. Il a été mis en examen et écroué. Ce suspect de 31 ans est soupçonné d'avoir participé à la préparation des attaques. Claude Guéant, entendu par la justice aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur a été convoqué dans le cadre des investigations sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il est déjà mis en examen dans ce dossier, mais pourrait l'être à nouveau pour d'autres chefs d'inculpation. La sécurité sociale quasiment à l'équilibre cette année, grâce à une meilleure croissance que prévue, selon la commission des comptes de la Sécu. Son déficit global devrait se réduire fortement à moins de 300 millions d'euros, au lieu des 2,2 milliards inscrits en loi de financement. La surprise du jour à Roland-Garros, à l'issue d'un match à suspense. L'Italien Marco Cecchinato s'est qualifié pour les demi-finales. Il est parvenu à s'imposer face au Serbe Novak Djokovic en 4-7. Novak Djokovic qui déclare ce soir qu'il ne sait pas s'il jouera la saison sur gazon à venir, notamment à Wimbledon.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Alors, la grève devrait se poursuivre. L'intersyndicale à la SNCF promet le 12 juin une journée de la colère cheminote. 14e épisode de grève, il commence demain soir. Le sénateur indépendant de l'Allier, Claude Maluret, s'en est pris au mouvement cet après-midi au Sénat.
C'est une défaite cuisante pour ceux qui ont organisé la pire des formes de grève. La grève à répétition destinée à pourrir au maximum et le plus longtemps possible la vie de nos concitoyens. Voilà pourquoi la stratégie des jusqu'au-boutistes de la grève est un échec. absence de soutien populaire, fissure du front syndical, érosion du taux de grévistes, détermination du gouvernement, soutien du Parlement. 2018 ne sera pas 1995.
Valérie Rabault, commentaire sur ce que dit ce sénateur.
Je crois que cet exemple sur la loi SNCF est un exemple du côté mal organisé de la loi. Le gouvernement nous avait dit, on fera une loi sur les mobilités. Il faut aussi qu'il y ait la négociation de la convention collective au sein de la SNCF. Ces deux sujets ne sont pas traités et le gouvernement fait voter la loi sur la SNCF, ce qui est quand même un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc sur ce point-là, nous considérons qu'il y a un manque cruel de lisibilité de ce que fait le gouvernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, sur cette question de la convention collective, nous invitons les partenaires sociaux à poursuivre la négociation.
Et la grève ?
À poursuivre la négociation. Encore une fois...
Et la grève ?
À poursuivre la négociation. Non, mais
vous comprenez mieux pourquoi il ne s'est rien passé pendant 5 ans. Hein.
Vous ne pouvez pas dire que cette réforme résout quoi que ce soit. Elle ne résout pas la dette.
Ben en tout cas,
elle ne résout pas le déficit de la SNCF.
Ça nous a amené sur la SNCF à une entreprise qui était au bord du dépôt de bilan.
Qui permet aux petites lignes de fonctionner.
Vous voulez dire qu'il reste de nombreux points en suspens.
Mais écoutez, je vous dirai un exemple très concret. Le gouvernement a envoyé sa copie à Bruxelles il y a 3 semaines. Est-ce que vous pensez que le montant de... Jusqu'en 2022, trajectoire des finances publiques. Est-ce que vous pensez que dans cette trajectoire des finances publiques, il y a la reprise de la dette ? La réponse est non. Donc soit le gouvernement ment aux Français, soit il ment à Bruxelles. Mais il ment à quelqu'un.
Sébastien Chenu.
Bon, on voit bien ce qui s'est passé, c'est que ce gouvernement a voulu plier, en tout cas donner des gages à l'Union européenne. Encore une fois, l'Union européenne demande, Emmanuel Macron agit sur commande. Cette réforme, on ne sait plus très bien finalement à quoi elle a servi. On nous a dit au début, c'est le statut des cheminots. On a agité ça comme un épouvantail. On s'est rendu compte, le débat faisant, que le statut des cheminots n'était pas la cause de tous les maux de la SNCF. Thierry Soler dit, c'est 5 ans de socialisme. Non, faut avoir l'honnêteté de dire que Alain Juppé a été largement responsable de
la droite n'a pas fait la réforme de la SNCF, elle aurait dû le faire.
Pas, je veux dire, faut pas être caricatural. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Les gains de productivité. Le gouvernement dit il faut qu'on se penche sur les gains de productivité de la SNCF. L'investissement sur le réseau. Quand, comment, où, avec quel argent. Les petites lignes. Annie Genevard dit il y a des questions, les petites lignes. Et donc, on a voté. Non, moi je suis désolé. Il y a des questions en suspens et on les vote pas. Alors, je sais que les Républicains ont l'habitude, ils ont voté 80% des projets de loi du gouvernement depuis un an.
Si, ce sont des calculs qui...
Qui ne sont pas faits pour moi d'ailleurs.
C'est absolument faux.
80%.
On a voté les ordonnances sur la loi travail.
Je vais terminer, madame. Donc, ils ont voté 80% des propositions du gouvernement. Mais il n'y a pas de honte. Vous avez le droit d'être d'accord avec le gouvernement. Je vais terminer si vous me le permettez. Nous y sommes hostiles. Parce qu'il y a aussi toutes ces questions en suspens. Et puis, de l'autre côté, on voit bien. Il y avait une commande faite par l'Union européenne. Le gouvernement a répondu à la commande. C'est tout, pas plus que ça.
Annie Genevard, juste rapidement, oui, vous dites c'est faux, vous n'avez pas tout voté, non. Pas 80%, ok.
Évidemment, absolument pas. Oui. Évidemment que cette loi ne résout pas tout. Il y a un sujet, quand même, et qui n'est pas propre à la loi sur la SNCF, mais à d'autres textes de loi, c'est l'application de la loi. Est-ce que les Français savent que certaines dispositions de cette loi concernant l'ouverture à la concurrence s'appliqueront en 2039, dans 20 ans? C'est-à-dire que le président de la République décide, et ma foi, à d'autres d'appliquer. Donc, vous voyez, il y a quand même des sujets. Mais c'est pas parce que...
Ah, vous étiez bien parti.
Objectivement. Monsieur Soller, vous n'êtes pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Vous n'êtes pas l'arbitre.
Un mot, moi, sur la SNCF.
Sur les cheminots, aujourd'hui.
Sur les cheminots et sur la SNCF.
Ils sont inquiets.
Tout le monde rappelle, en tout cas, les moins jeunes qui nous écoutent, qu'Alain Juppé, à l'époque, en 1995, les grandes grèves qui avaient duré très longtemps et compagnie. Cette réforme, elle aurait dû être faite à ce moment-là. Et la vérité, c'est qu'aucun gouvernement, ni de gauche, ni de droite, n'a eu le courage politique, ou bien n'a pas eu les contextes politiques, appelons ça comme vous voulez. Je ne veux pas non plus stigmatiser qui que ce soit. En tout cas, ça n'a pas été fait. Bon, résultat des courses, la SNCF, quand on arrive en ce début d'année, là, 2018, elle est dans quel état? Elle est dans un très mauvais état.
Est-ce que vous avez su parler aux cheminots? Parce que c'est ça le problème. On a l'impression qu'il y a une espèce de schisme permanent. Personne ne
se comprend. Je crois qu'on a su leur parler. Je vois des grévistes qui baissent énormément. Ce qui aurait été odieux, bien sûr. Parce que les cheminots, c'est des gens... D'abord, la SNCF, les Français aiment le train. On a un rapport au rail, on a un rapport à cette entreprise qui est considérable. Et les agents de la SNCF, c'est des gens qui se dévouent formidablement. Après, ce statut-là, on peut plus continuer comme ça. Par contre, on aurait arrêté le statut pour tout le monde du jour au lendemain. Ah ben ça, naturellement, les gens se seraient dit, mais attendez, moi, j'ai un travail, j'ai un statut, j'ai un salaire qui n'est pas non plus formidable. C'est scandaleux. Eh ben écoutez, je trouve qu'il y a eu là une réforme, qui est la réforme raisonnable, que depuis 25 ans, on ne faisait pas. Elle est faite. Je suis heureux que les Républicains aient l'honnêteté politique de voter pour. Voilà. Mais maintenant, de grâce, Madame Rabault, vous n'avez pas tout réussi dans le précédent quinquennat.
On ne reprend pas le débat.
Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que la loi qui est votée sur la SNCF ne résout pas les problèmes que rencontrent les Français, sont l'investissement, qui est quand même un point clé, et qui sont aussi la reprise de la dette de la SNCF.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes après la météo et le journal, et pour la deuxième partie de Tout est politique sur France Info.
Du 9 au 27 juillet, prenez le Sud avec le Festival Radio France Occitanie-Montpellier. Marianne Crébassa, Fazil Say, Marc Minkowski, Hervé Niquet, Isabelle Georges, la Garde Républicaine, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Près de 1000 musiciens chantent la douce France du 9 au 27 juillet. Opéra, musique de chambre, découverte, symphonique, jazz, électro. 175 concerts au Festival Radio France Occitanie-Montpellier. Tout le programme sur lefestival.eu. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Attention aux orages encore violents ce soir et notamment du côté du Massif Central et de la région Rhône-Alpes, mais aussi de la Bourgogne à la Franche-Comté, sans oublier le sud de la Lorraine et de l'Alsace. Attention, les cumuls de pluie seront une nouvelle fois importants par endroits, provoquant ces phénomènes de crues éclairs. Demain matin, on attend un temps plus calme, mais sous un ciel encore très nuageux. Des éclaircies tout de même près des frontières du nord-est et le long de la vallée du Rhône et de la Saône. Les orages reprendront du service l'après-midi et seront une nouvelle fois violents par endroits. À noter un temps plus calme, mais nuageux dans le sud-ouest et en Corse. Les températures en fin de nuit seront comprises entre 12 et 18 degrés, comptez 12 à Brest et 18 à Nice. Les maximales seront stationnaires et comprises entre 17 et 29 degrés d'ouest en est.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
France Info, il est 21h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir, mon cher François Lepage.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Du jamais vu depuis plus de 15 ans, les comptes de la Sécurité sociale quasi à l'équilibre cette année. Le déficit sera ramené à 300 millions d'euros selon la commission des comptes de la Sécu qui s'attendait elle-même à un trou de plus de 2 milliards. Guillaume Gaven, pourquoi cette bonne nouvelle ?
Tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux à cotiser. En d'autres termes, si le trou de la Sécu se résorbe année après année, c'est parce que les créations d'emplois ont repris et qu'elles vont continuer. Tous les indicateurs sont au vert. Les cotisations sociales ont ainsi augmenté de 3,5% l'an dernier. Et la Sécu revient de loin. Au plus fort de la crise, en 2010, le déficit avait dépassé les 27 milliards. Ça allait mieux depuis. L'an dernier, le trou s'était pas mal comblé, passant de 8 à 5 milliards d'euros. La Sécurité sociale s'attendait pour cette année à un déficit de 2 milliards. C'est donc encore mieux. Dans le détail, 3 des 4 branches de la Sécu sont excédentaires. Vieillesse, famille, accident du travail. Reste le déficit de l'assurance maladie, mais il a été divisé par 10 pour s'établir à 500 millions d'euros aujourd'hui, du jamais vu depuis 20 ans. Reste que le trou, propre bandit, ne sera pas rebouché pour autant. Il reste encore plus de 120 milliards de dettes sociales à rembourser d'ici 2024.
Et Guillaume Gaven, 28 départements en alerte aux orages ce soir du sud-ouest au nord-est. Un département est lui en vigilance inondation, l'Eure, avec une crue importante sur la rivière Iton. Ce matin, un automobiliste est mort noyé dans sa voiture dans ce département. Il n'a pas pu sortir du véhicule qui s'est renversé dans une cuvette d'eau. Par ailleurs, les opérations de pompage se poursuivent dans la commune de Breteuil, frappée par des pluies diluviennes la nuit dernière. Une cinquantaine d'habitants ont dû être évacués. Selon la préfecture, la situation reste encore tendue, même si elle est désormais stabilisée. Emmanuel Macron met en garde contre une escalade qui pourrait conduire au conflit après l'annonce aujourd'hui par l'Iran d'une augmentation de sa capacité d'enrichissement d'uranium. Le chef de l'État recevait le Premier ministre israélien ce soir à Paris. Benjamin Netanyahou tente de convaincre les pays européens d'abandonner l'accord sur le nucléaire iranien dans le sillage des États-Unis. Le nouveau gouvernement populiste italien de Giuseppe Conte a obtenu la confiance au Sénat ce soir. Le président du Conseil italien doit maintenant obtenir celle de la Chambre des députés lors d'un vote prévu demain. Il était une figure centrale de la politique espagnole depuis près de 15 ans. Mariano Rajoy lui quitte le devant de la scène quelques jours après avoir été renversé par le Parlement. Lille peut respirer. Le gendarme financier du foot français a rendu son verdict. Le LOSC pourra jouer en Ligue 1 la saison prochaine alors qu'il était sous la menace d'une rétrogradation administrative à l'échelon inférieur. Et puis c'est l'invité surprise des demi-finales de Roland-Garros, l'Italien Marco Cecchinato, victorieux ce soir de Novak Djokovic contre toute attente en 4-7. Ce Sicilien de 25 ans n'avait pas gagné un match en Grand Chelem avant Roland-Garros. 21h33 sur France Info, la suite de Tout est politique, c'est avec Jean-François Akili.
Tout est politique. Jean-François Akili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités. Annie Genevard, secrétaire générale Les Républicains, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée du Doubs, avec Valérie Rabault, députée PS de Tarn-et-Garonne, présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, avec Thierry Soler, seul contre tous, député La République en marche des Hauts-de-Seine, avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du désormais Rassemblement national. Alors le Giuseppe Conte est le nouveau chef du gouvernement italien, a défendu sa politique devant le Parlement à Rome, avec notamment pour argument la lutte contre ce qu'il appelle le business de l'immigration. Le nouveau pouvoir en place veut renégocier la règle européenne des Dublinés qui fait peser l'essentiel de la charge, vous le savez, de l'accueil des migrants aux pays en première ligne comme l'Italie. Les clandestins doivent faire leurs valises. La planque c'est fini, avait déclaré ce week-end Matteo Salvini. Nicolas Dupont-Aignan tient un discours à peu près similaire. Le président de Debout la France était l'invité de Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint ce matin sur France Info.
Je veux contrôler les frontières, supprimer l'aide sociale qui sert d'appel d'air, expulser les clandestins. Oui, ils doivent faire leur bagage. Il y a un moment, il faut dire les choses crûment, parce que sinon, ce sont les Européens, les Français qui feront leur bagage, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus Français dans leur propre pays.
Valérie Rabault, commentaire sur ce que vient de dire Nicolas Dupont-Aignan.
Je n'appelle pas beaucoup de commentaires, on a l'habitude d'entendre ce genre de propos. En revanche, ce qui est important, c'est la politique vis-à-vis des réfugiés de l'Union européenne. Et il est exact que depuis plusieurs années maintenant, ce qui est une question qui devrait être traitée au niveau européen, n'a pas fait l'objet de réponse de la part de cette même Union européenne. Vous prenez l'exemple des Dublinés, des demandeurs d'asile qui sont en France, mais qui sont arrivés en France en passant par la Pologne, l'Italie ou la Grèce, qui se sont fait enregistrer dans un pays autre, qui ont passé sans doute parfois une ou deux journées, qui sont depuis 6 mois en France, on leur demande de retourner dans le pays par lequel ils sont arrivés, que ce soit la Grèce, l'Italie...
C'est une règle qui doit disparaître,
ou la Pologne. Nous avions, il y a quelques temps, effectivement, dire qu'il faut que cette règle évolue, parce qu'on ne peut pas laisser et la Grèce, et l'Italie, et la Pologne, tous les pays, porter à eux seuls la question de l'examen des situations des réfugiés. Ce n'est pas possible. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Donc il faut arrêter de se voiler la face sur ce point-là. Il faut qu'il y ait absolument une réforme de ce qu'on appelle les Dublinés.
Sébastien Chenu, sur ces questions, les Dublinés, il faut en finir aussi, vous le pensez ?
Oui, bien sûr, mais s'il y a bien un sujet sur lequel l'Europe est en échec, c'est l'immigration. Et ça commence largement à se voir, puisque les peuples européens se réveillent et disent stop. Cette histoire des Dublinés, elle est ridicule. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui veulent faire une demande d'asile la fassent dans leur pays d'origine, ce qui leur éviterait de venir alors qu'ils n'ont aucune capacité à faire accepter et reconnaître cette demande d'asile, et ensuite à ne pas repartir. Il faudrait qu'ils la fassent sur place. Il faudrait aussi que l'Union européenne, à un moment...
Ils ne partiraient jamais, hein, si d'aventure...
Enfin, il faudrait qu'ils puissent la faire.
Il faut se donner les moyens de ça, madame.
Mais ça n'a aucun sens, cette proposition.
Si on veut faire en sorte de limiter, je termine mon propos, si on veut faire en sorte de limiter ce flux migratoire continu, que finalement le gouvernement ne fait que gérer, on gère du flux, un flux continu qui ne s'arrêtera pas. Eh bien, si on veut faire en sorte que ça s'arrête, si on veut faire en sorte que nous ne soyons pas submergés comme nous le sommes et comme nous allons l'être demain, il faut s'en donner les moyens. Le commissaire européen aux migrations disait, c'est pas seulement un impératif moral, mais c'est aussi un impératif économique et social pour notre continent vieillissant d'accepter des migrants. Vous vous rendez compte? Un impératif économique. Eh bien, moi, je dis non. Je dis que ce n'est pas possible. Je dis qu'on peut se donner les moyens. Je dis que l'Europe est en échec, que les nations doivent reprendre le contrôle de leurs frontières. Et d'ailleurs, je vois, le gouvernement français nous parle là d'un verrou frontalier. Enfin, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est-à-dire, en fait, on contrôle et en même temps, on contrôle pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement incohérente? C'est la limite du en même temps, d'ailleurs.
Avec l'Italie, notamment. Bah oui,
c'est la limite du en même temps. Où on maîtrise des frontières? On sait qui rentre, qui vient dans notre pays pour y faire quoi, combien de temps, etc. Où on laisse les portes ouvertes? On laisse en ce moment les portes ouvertes. Les Italiens ont réagi, les Français réagiront, comme tous les peuples européens vont réagir.
Annie Genevard, chez les Républicains, vous partagez le point de vue de votre voisin du Rassemblement National sur les questions de migration?
On vit une situation extrêmement difficile et très périlleuse. Et tous ceux qui veulent donner des leçons d'humanité à l'Italie seraient bien inspirés d'être un peu plus modestes. Il y a une situation critique majeure dans tout le continent européen. Et cette affaire doit absolument constituer un sujet prioritaire dans la prochaine campagne des européennes. La capacité que nous pourrons démontrer de gérer la question migratoire sera une question fondamentale de crédibilité. Pour ce qui concerne la France, nous avons dit clairement qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales. La France doit pouvoir choisir qui elle accepte sur son sol et qui devient français et expulser tous ceux qui n'ont rien à faire en France.
Que l'avez-vous fait?
Écoutez, Monsieur Chenu.
C'est un constat, madame.
Non, c'est pas un constat.
Vous avez été aux affaires.
Mais on a été aux affaires dans une situation qui était tout de même, convenez-en, moins critique qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et que soutenez-vous au Parlement européen?
Écoutez, je pense que nous avons, aux Républicains, à l'occasion du débat sur la loi asile et immigration, fait des propositions extrêmement précises. Et
au Parlement européen, vous faites l'inverse, madame.
Mais, monsieur
Chenu... Vous votez l'inverse, vous votez les quotas de migrants.
Nous ne sommes pas encore en campagne européenne.
Non, mais c'est une réalité.
Réservez
vous ne pouvez
vos
pas
arguments
balayer cela.
Pour le... Je vous parle de la future campagne
européenne. Moi, je
vous
parle de la réalité,
vous
madame.
Vous êtes au Parlement européen en disant qu'il n'y a pas pire que le Parlement européen. Mais non, écoutez, entre voter des quotas de migrants...
Ah, bon, c'est bien de le reconnaître.
Non, mais...
Mais un peu de cohérence quand même. Vous ne pouvez pas avoir des positions au Parlement européen et l'inverse.
Voter des quotas de migrants, ça veut dire choisir qui l'on accepte et qui l'on n'accepte pas. Et ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre nous, en effet.
Bien sûr, en tous les cas, il n'y aura pas de liaison possible entre vos deux formations sur ces questions migratoires. Thierry Soler, est-ce que vous pensez que l'idée d'un verrou frontalier avec l'Italie est une bonne idée?
Schengen, ça prévoit la capacité, en cas de difficulté majeure, d'assurer un contrôle frontière.
C'est un recul sur l'idée européenne.
Pardon, tout ce qui a été dit, on peut ne pas être d'accord parfois avec les formules, tout ça, enfin, c'est une réalité. En Italie, par exemple, objectivement, ils sont en première ligne de l'arrivée massive de migrants qui viennent du continent africain. Et c'est vrai qu'on peut pas à la fois se dire c'est à l'Europe de gérer ça et de laisser les Italiens eux-mêmes le gérer.
La France peut travailler avec l'Italie telle qu'elle est disposée aujourd'hui.
Toute l'Europe ne fonctionne pas, on l'a vu depuis 15 ans. Ça fait 10 ans que l'Europe, c'est au pied du mur qu'elle commence à regarder les problèmes. Quand c'est la crise financière avec la Grèce, on les voit passer la nuit entière essayer de trouver des solutions. Ça sent pas quand même la préparation complète de la situation. Et quand il y a la crise des migrants, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, l'Europe, elle est en panne. Et c'est très inquiétant la situation qu'on est en train de voir avec les Anglais qui s'en vont, avec la situation en Espagne, avec ce qui se passe en Italie. Avec tous les mouvements en Pologne, en Hongrie.
Il y a peut-être quelques bonnes raisons.
Non, mais vous surfez sur les problèmes. Moi, j'essaie de trouver des solutions.
Non, pas du tout. Ça marche pas. Et votre histoire ne marche pas.
Je crois qu'aujourd'hui, nous, au niveau national en France, on a voté cette loi asile immigration, qui, je sais bien que toutes les formations politiques ont chacun leur nuance sur le sujet, je crois, rationnellement, apporte des solutions déjà assez concrètes. Est-ce que ça règle le problème de A à Z? Bien sûr que non.
Et
ce qu'il faut aujourd'hui, c'est massivement que l'Europe se dote de priorités. Et la première, c'est de renforcer l'Union européenne, ses frontières.
Ça fait 20 ans qu'on entend ça, Thierry Soler.
Bien sûr.
Ça fait 20 ans que ça marche pas et vous nous dites on va continuer. Écoutez, je crois qu'à un moment, il faut laisser aux nations la capacité de décider qui entre, qui sort et qui se maintient sur son sol.
La loi immigration va aggraver la situation.
Non, vraiment pas.
Mais bien sûr que si. Elle augmente la capacité d'immigration en élargissant le droit aux familles, aux parents.
On va poursuivre un instant là-dessus. 21h41 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Diane Ferschit.
Par 240 voix contre 85, le Sénat adopte en première lecture la réforme ferroviaire, un texte quelque peu modifié pour donner des gages aux syndicats. Pour son rapporteur Gérard Cornu, le Sénat a mis la réforme sur de bons rails. Une commission paritaire doit à présent trouver un texte commun entre sénateurs et députés. Le mouvement de grève de son côté se poursuit, il reprendra jeudi. En Italie, le Sénat accorde sa confiance à Giuseppe Conte et à son gouvernement. Il a défendu la politique qu'il entend mener autour de trois axes. La lutte contre le business, selon lui, de l'immigration, la relance de la croissance et l'ouverture auprès de la Russie. Après cette entretenue avec Angela Merkel hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrait Emmanuel Macron ce soir. Il veut créer un front commun contre l'Iran, une menace existentielle pour Israël selon lui, alors que Téhéran a annoncé aujourd'hui vouloir augmenter ses capacités d'enrichissement d'uranium. À Paris, Marseille, Lille et Lyon, plusieurs centaines de personnes ont défilé contre sa venue à l'appel d'associations pro-palestiniennes. Le gendarme financier du football confirme le maintien dans l'élite du LOS que l'an prochain, le club de Lille va pouvoir recruter. La DNCG le lui avait interdit en raison de garanties financières insuffisantes. Le LOSC devra néanmoins encadrer sa masse salariale et les indemnités de mutation. 9000 km à la nage de Tokyo à San Francisco, c'est le défi que s'est lancé un Français, Benoît Lecomte. Il a débuté aujourd'hui sa traversée du Pacifique. Elle va lui prendre de 6 à 8 mois. Son but, alerter sur la pollution des océans. Dans son aventure, il est épaulé par une équipe de 8 personnes et suivi par un voilier de 20 mètres.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Nous évoquions la situation des migrants et ce sujet au fond qui s'est déjà installé dans une campagne des européennes qui officiellement n'a toujours pas débuté. Annie Genevard, quand vous entendez des personnalités eurodéputées comme Nadine Morano qui ce matin voulait renvoyer dans leur pays les mineurs isolés étrangers, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de surenchère qui se fait, y compris dans les rangs des Républicains?
Alors, il faut écouter les présidents de conseils départementaux, puisque ce sont eux qui ont la charge des mineurs non accompagnés. Le coût d'un mineur non accompagné, pour une collectivité comme les départements, c'est 50 000 euros par an. J'étais cette semaine avec la présidente de mon département qui me disait « j'ai une seule modification à la décision budgétaire modificative, je remets de l'argent pour les mineurs non accompagnés ». Il y a un moment, on atteint le milliard d'euros. Il faut voir qu'il y a une situation qui est devenue ingérable. En plus, que fait-on de ces enfants? Alors, la loi Asile et Migration a prévu que dès lors qu'un mineur non accompagné bénéficie du droit d'asile, toute sa famille peut le rejoindre. Donc vous voyez bien qu'on a là une difficulté. On a déjà énormément, on est en panne en matière d'intégration. On ne peut plus intégrer davantage de populations issues de l'immigration. Alors évidemment, si on se place sur un plan strictement humain, c'est terrible la situation de ces jeunes, de ces enfants, de ces jeunes gens qui errent dans les rues. C'est absolument dramatique. Mais on ne peut pas ignorer les contraintes qui pèsent sur les Français en matière d'accueil. Et en plus, monsieur Aquili, il faut savoir que c'est devenu un commerce. C'est devenu une affaire de réseaux mafieux. Ce sont des gens qui organisent des réseaux, ils font venir les mineurs, puis leurs familles, tout ça se monnaie à prix d'or. Il ne faut pas être naïf, il faut voir la réalité telle qu'elle est, essayer de résoudre les problèmes.
Vous voyez bien, Genevard, que Thierry la Soler. Droite a gouverné sous Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, François Hollande pendant 5 ans, le camp de Sangatte, ce n'est pas nouveau. Vous voyez. Donc ce sujet-là, il est là devant nous pendant des décennies. Ce qu'il faut, c'est prendre les bonnes décisions au niveau national et faire enfin exister l'Europe. C'est ça la priorité numéro un. Alors après, on a le droit de considérer comme M. Chenu, moi je lui reconnais cette cohérence, que l'Europe ça ne veut pas marcher et qu'on doit remettre une frontière autour de nous. Si c'est ça, dans 10 ans, la France elle sera en récession complète et on sera avec un niveau de pauvreté le plus total. Moi, c'est pas le projet qui est le mien, je pense pas que ce soit le projet d'Adi Genevard. Voilà, donc maintenant, encore une fois, on peut ne pas être d'accord sur à peu près sur quelques dispositions en particulier, mais il y a des avancées dans cette affaire et surtout, qu'au niveau européen, on se bouge, parce que vous voyez, les images qu'on voit et que les Parisiens vivent, Porte de la Chapelle, oui, et qu'on voit dans plein de départements aujourd'hui, si on continue comme ça, c'est-à-dire sans faire grand-chose, ce qui est le cas depuis 10 ans, dans 4-5 ans, ça va devenir ingérable. Voilà la vérité. Et c'est à ça que le président de la République et le Premier ministre, sans aucune naïveté, Jean-François Quimet, s'attellent.
J'entends le discours d'Annie Genevard, mais enfin, ces constats, ce sont des banalités affligeantes. Oui, c'est un coût, oui, il y a des réseaux, mais enfin, on le sait depuis des années.
On a l'habitude que le Front National et les Républicains sont principalement
madame, laissez-moi parler. Je veux dire, tout ça, ce sont des constats d'une banalité affligeante. Ça fait des années qu'on dit que ça a un coût, qu'il y a des réseaux, etc. On le sait. Quelles sont les propositions que vous faites derrière?
Elles sont très précises.
Moi, je crois qu'il y a.
Je vais terminer,
madame. Je vais parler parce que nous avons des propositions. Il y a une présomption de minorité pour ces jeunes qui sont là. C'est-à-dire que on présume qu'ils sont mineurs. Eh bien, nous proposons de renverser ça. C'est-à-dire que nous présumons qu'ils sont majeurs. Ou alors, eh bien, nous pouvons rendre obligatoires les tests de minorité. On peut se doter d'outils pour empêcher cette submersion de faux mineurs sur notre territoire. Il ne s'agit pas simplement de constater, parce qu'on sera tous d'accord sur un constat. Mmh. C'est difficile, il y a des réseaux, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais derrière, comment on agit? Bah, écoutez, je trouve que c'est un peu court sur les propositions qu'on a entendues. J'ai rien entendu de très convaincant, mais nous en avons et je viens de vous les exposer.
Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons éminemment tout au long de ces semaines, de ces mois qui viennent, évidemment, dans la perspective de la préparation des élections européennes. Je voudrais vous soumettre, place à l'actu, cette déclaration du chef de l'État ce soir, Emmanuel Macron, qui a reçu, vous le savez, Diane Ferchit l'évoquait, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien à l'Élysée. Eh bien, le chef de l'État s'est exprimé à propos du nucléaire iranien et a mis en garde toutes les parties contre un risque de conflit. On l'écoute.
Il y a une montée de la tension réciproque. Et moi, j'invite tout le monde à stabiliser la situation et à ne pas céder à cette escalade, parce qu'elle ne mènerait qu'à une chose, le conflit.
Thierry Solaire, le Premier ministre israélien est venu tenter de convaincre, en vain vraisemblablement, Emmanuel Macron de créer une sorte de front commun contre l'Iran. Qui sont aujourd'hui nos alliés ?
Alors d'abord, la France est là et c'est son rôle historique. À mon avis, une voix singulière. Elle n'est pas alignée pour les uns ou pour les autres. Et je crois, moi, qui suis très attentif à la sécurité d'Israël, que l'avenir dans cette zone ne pourra pas passer autrement que par un processus avec une capitale partagée, Jérusalem. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate de toute évidence qu'on est en période de basse sur l'avancée et la résolution de ce conflit. Et qu'il y a une escalade qui est en cours au niveau international, mondial, dans cette zone en particulier, qui devient dangereuse. Bah, le rôle de la France, et je trouve que le président de la République l'exerce fortement, c'est d'essayer de participer à ce que les points de vue qui sont très divergents se calment un petit peu et d'essayer de se rapprocher. Parce que sinon, l'escalade, on la connaît. Aujourd'hui, Israël reçoit des roquettes de plus en plus fréquentes. L'armée israélienne réprime très fortement les manifestants qui sont là. On voit bien,
donc,
si on veut dire comme ça pendant des mois, que tout ça va mal tourner.
Une centrale de neutralité. Valérie Rabault, vous partagez ce point de vue?
Moi, je pense que la France doit au contraire prendre un leadership pour affirmer le maintien de l'accord avec l'Iran. Il n'y a pas de raison que les entreprises françaises fassent les frais du fait que le président Trump a décidé tout seul de se retirer, de retirer les États-Unis de cet accord avec l'Iran. Donc le président de la République française est garant de cet accord avec l'Iran, qui encore une fois avait fait l'objet de plusieurs années de négociations pour aboutir à un point équilibré, qui était de dire l'Iran prend des engagements un peu au-delà sur le fait de ne pas enrichir de l'uranium en vue d'une éventuelle...
Donc vous dites leadership, maintien de l'accord.
Mais maintien de l'accord, mais il faut le dire avec force. Celle qui l'a dit avec le plus de force, c'est Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne sur la scène internationale.
Vous n'aimez pas les compliments au président de la République, Valérie Rabault, mais reconnaissez quand même que le nouveau, il a un peu plus de leadership que l'ancien.
Je regrette, Thierry Solaire. Je pense qu'en matière de diplomatie, il faut garder un cap. On ne peut pas aller faire la mise en scène qui a été faite aux États-Unis en disant on va renégocier un accord et l'accepter, et puis se rendre compte que après coup, au moment où parle la représentante Union européenne en disant il faut garder cet accord, on dit on va peut-être pouvoir renégocier un autre. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est de l'instabilité diplomatique.
Bien sûr qu'il faut une position équilibrée, ne pas être suiviste, mais je crois que le bilan d'Emmanuel Macron en politique étrangère, il est catastrophique. Accord de Paris, question de l'Europe sur les transferts d'excédents, question syrienne, où est-ce qu'il a fait bouger les choses, Emmanuel Macron? Pas une fois il a fait bouger les choses,
il a fait évoluer le débat.
Donc la réalité nous oblige à dire qu'Emmanuel Macron, son action dehors de l'Hexagone, elle est aussi mauvaise que son action à l'intérieur de l'Hexagone.
Elle est reconnue dans le monde entier.
Non, justement, lisez la presse internationale. Lisez la presse internationale, vous verrez qu'elle est beaucoup moins dithyrambique aujourd'hui. Je voyage aussi. Qu'elle est beaucoup moins dithyrambique que ce qu'elle a peut-être été. Je vous parle de la diplomatie française. De la diplomatie française, de son cap et de sa capacité à garder le cap.
Allez, 21h51 sur France Info. Le dernier appel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Les orages encore très présents sur la France ce soir. 28 départements sont en vigilance orange, de la Charente-Maritime jusqu'au Lot-et-Garonne et de la Marne jusqu'à l'Isère. L'Eure est aussi ce soir en vigilance orange, mais aux inondations. Dans ce département, les fortes intempéries ont fait un mort, un homme qui a été retrouvé noyé dans son véhicule. Une première depuis 2001, la sécurité sociale sera quasiment à l'équilibre d'ici la fin de l'année grâce à une meilleure croissance que prévu. Selon la commission des comptes de la sécurité sociale, son déficit global devrait se réduire fortement à moins de 300 millions d'euros. Les syndicats appellent à la poursuite de la grève à la SNCF. Le mouvement reprendra jeudi. Les sénateurs ont, eux, adopté la réforme ferroviaire, un projet de loi qu'ils ont modifié pour rassurer les syndicats. Les principes du projet du gouvernement restent toutefois conservés, comme l'ouverture à la concurrence et la fin du recrutement au statut de cheminot. Un suspect belge mis en examen dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre, arrêté en 2016 en Belgique. Il est soupçonné de complicité dans la préparation de ces attaques. Il a été remis aujourd'hui à la France et écroué. Quelques jours du début du mondial de football en Russie, Emmanuel Macron est allé à la rencontre de l'équipe de France à Clairefontaine. Une compétition est réussie quand elle est gagnée, a déclaré le président de la République. C'est important pour le pays et pour le moral du pays, a-t-il ajouté.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Cette ultime interrogation métaphysique vous intéresse, Annie Genevard. La République en marche va-t-elle s'entendre avec les Républicains aux élections municipales? Je vous pose la question parce que c'est ce qu'a laissé entendre vraisemblablement M. Christophe Castaner, le patron de l'AREM et ministre des Relations avec le Parlement. C'était hier matin sur Public Sénat.
Il y a des endroits où vous avez des maires élus avec une étiquette du Parti Socialiste, avec une étiquette DLR, qui ont fait un super boulot. Si c'est le cas, je me fiche de savoir s'il a été un jour républicain ou pas. Je lui ferai une proposition de travail et je pourrai parfaitement soutenir, le jeu étant La République En Marche, soutenir un maire, quelle que soit l'origine de son engagement.
Par exemple, à Toulouse, ça pourrait être le cas.
Ça pourrait être le cas à Toulouse, ça peut être le cas partout. Je n'exclus rien.
Annie Genevard, voilà, vous pouvez fusionner maintenant.
Alors, ça s'appelle une fake news, c'est d'actualité, on va légiférer sur le
c'est
sujet.
C'est une déclaration d'un membre du gouvernement
c'est
et responsable.
C'est une déclaration qui laisse
à
entendre qu'il y aurait un accord possible. Non, en réalité, et sérieusement, les Républicains présenteront des candidats aux municipales partout. Ils en présenteront partout, des têtes de liste, des gens... aux Républicains ou soutenus par les Républicains. Alors, en réalité, tout ça est très révélateur de deux choses. D'abord, La République En Marche souffre d'un déficit d'ancrage local. Ça, tout le monde le sait. On voit bien les réunions qui sont faites sur le terrain n'attirent personne. Ils n'ont pas de représentants locaux sur le terrain dans les villes, dans les collectivités territoriales. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, comme l'a dit notre porte-parole, braconner sur les terres des autres. Ici, Parti Socialiste. Mais non, c'est
donc,
non. Non, évidemment. Nous avons un réseau de maires de très grande qualité. C'est une de nos forces.
Écoutez, vous
n'avons pas l'intention d'en faire bénéficier La République en
Alors,
marche.
Solaire. Il y a eu, depuis l'élection de Laurent Wauquiez, depuis l'absence de consigne de vote des Républicains pour Emmanuel Macron.
C'est faux. Thierry Solaire, vous dites une contre-vérité.
Il n'y a pas eu un appel clair
à voter pour Emmanuel Macron. Il y a eu une déclaration très claire.
On n'a pas la même vision de la clarté.
Très claire.
Donc il n'y a pas eu de consigne de vote claire pour Emmanuel Macron. Et il y a eu cette ligne politique. Et aujourd'hui, moi, je vois, notamment dans des villes assez significatives, plus de 20 000 habitants, plus de 30 000 habitants, beaucoup de maires qui ont été membres des Républicains et qui ne recotisent plus aujourd'hui et qui font un constat, c'est que ce gouvernement, globalement, est en train de mettre en œuvre les réformes que la droite et la gauche n'ont pas mises en œuvre depuis 20 ans.
Plus d'une commune sur deux a perdu des dotations.
Et donc,
plus d'une commune
et donc qu'est-ce
sur
qu'on
deux.
Voit On voit que ces maires soutiennent l'action du gouvernement. Ils trouvent que le président de la République.
Donc c'est une OPA, une
bien.
Tentative d'OPA.
Et donc, à partir du moment où ce sont des bons maires. Et qu'il n'y a pas de problème idéologique,
oui,
pourquoi voulez-vous qu'on les soutienne?
C'est pas une fake news.
Alors, c'est extraordinaire.
C'est pas du tout une fake news.
Moi, je pense que c'est
une
marque de suffisance. On distribue des bons points. Voilà, un bon maire, nous le
soutiendrons.
Un mauvais maire.
Madame Genevard, s'il y avait une loi sur les fake news, vous seriez déjà poursuivi et peut-être même condamné. Parce que c'est déjà le cas. Par exemple, moi, je suis élu régional dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Eh bien, Xavier Bertrand, qui vient des Républicains, qui a une majorité avec des Républicains, a dans sa majorité Gérald Darmanin. Donc, tous ces gens-là. Non, mais il y a les Républicains dans sa majorité.
Gérald
donc
Darmanin
ces gens-là,
non
je rappelle, mais non mais plus. Il était en marche, donc ça veut dire que ces gens-là travaillent déjà ensemble.
Je rappelle que vous êtes vous-même ainsi que Thierry Solaire des anciens de l'UMP.
Mais
tout
absolument.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui le problème des Républicains, si vous me permettez, le problème des Républicains, c'est un manque total de cohérence. Moi, je comprends qu'En Marche veuille aller
Comptez
partout rassembler, mais simplement c'est un canard sans tête. Et ce qui va se passer, c'est une chose, c'est que les élus des Républicains, bien sûr qu'ils vont aller avec En Marche, bien sûr qu'ils vont faire des alliances avec En Marche, et les électeurs des Républicains, eh bien sûr qu'ils vont venir au Rassemblement National. Et une question se pose derrière, avec qui Laurent Wauquiez finira-t-il par faire des alliances? Finalement, il n'y a plus l'UDI, il n'y a plus le MoDem, il n'y a pas Macron, il nous claque la porte au visage, avec qui feront des alliances ces gens-là? Ça va faire un peu court à la fin.
Alors, Valérie, quand vous serez aussi puissant que nous,
on était devant vous déjà au présidentiel. Alors moi, je serai vous, je serai un peu modeste. On était déjà devant vous au présidentiel, donc
il reste peu de temps. Valérie Rabault, je signale quand même que la tentative d'OPA se vaste et en même temps concerne aussi les maires socialistes.
Non, mais ce qui montre que effectivement la République en marche n'a pas d'ancrage local. Ça, c'est une réalité. Et même au bout d'un an d'exercice du pouvoir,
on n'y arrive pas.
Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça ne démarre pas, c'est au point mort. On le voit sur les territoires.
Il y a 350 députés. Hein.
Mais je vous parle d'un ancrage local.
Bah, ils ont été élus localement.
Si tous les 350 députés veulent être candidatés pour être maire, mais qu'ils y aillent. Mais c'est ce que vous dites. Je vous dis juste que si le président Castaner du mouvement La République En Marche est obligé d'aller tenter de débaucher les uns les autres, c'est qu'il n'a pas de candidat sous la main.
Mais c'est qu'ils sont débauchables.
Mais c'est exactement ça.
Qu'ils paraissent débauchables.
Quand vous voyez Jean-Luc Moudin qu'à Toulouse, franchement, Jean-Luc Moudin qui considère que le gouvernement d'Édouard Philippe fait un très bon travail.
Mais tous ces gens-là travaillent déjà ensemble.
Jean-Luc Moudin qui est au Républicain et n'entend pas l'équité.
Ces gens-là travaillent déjà ensemble. Tout ça, c'est du baratin. Les Républicains, une partie d'entre eux, et En Marche travaillent déjà ensemble. N'ayez pas honte, c'est vos choix.
Mais
ce sont vos choix, il faut les assumer.
Allez, c'est terminé.
Oui, mais c'est la réalité.
C'est terminé pour Tout est politique. Je crois qu'on va faire deux émissions là-dessus. C'est assez intéressant. Merci à vous, Annie Genevard. Merci Valérie Rabault, merci Thierry Solaire et merci Sébastien Chenu d'avoir participé à ce Tout est politique, assez dynamique, il faut le reconnaître. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une prochaine édition de Tout est politique sur France Info. Bonsoir.